Aujourd'hui, nous allons finir chapitre 11 dans l'épître aux Romains. Donc, on focalise que sur les versets 33 à 36. Et puis, pendant le message, je vais faire une petite déviation. Donc, ceci est une louange à Dieu. On est dans Romains chapitre 11, versets 33 à 36. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je vais expliquer un peu le verset. Donc, aux profondeurs. Donc, profondeur, c'est le mot d'où nous avons le mot, en anglais au moins, bath, baignoire. C'est l'idée de l'eau. Et ça veut dire profondeur. Les eaux profondes, un degré extrême. L'immensité. Donc, on dit aux profondeurs, ça nous dépasse. Okay? Aux profondeurs de la richesse. Cette richesse peut être l'argent, c'est la richesse, c'est les biens, c'est l'abondance et même la porte précieuse, mais pas spécialement ou pas obligatoirement matérielle, ça peut être aussi spirituel. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, et sagesse c'est la perspicacité, la compétence, l'intelligence de Dieu, et la science de Dieu, donc là c'est la connaissance, la doctrine, la sagesse, que ses jugements, et donc jugement, c'est un verdict ou une décision en justice, ces jugements sont insondables. Insondable veut dire qu'il ne peut pas être recherché. Okay? Donc, on peut gratter la surface, mais on ne peut pas vraiment aller comprendre les profondeurs de justice en Dieu. Le mot veut dire aussi impénétrable, insondable, impossible de rechercher. Il dit que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Ce mot incompréhensible veut dire ce que l'homme ne peut pas tracer ni explorer. Donc tout ça, ça nous dépasse. Insondable, incompréhensible. Avec tout cela, nous allons résumer en disant que Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est majestueux. Il est effarant. Il n'y a pas de limite à sa richesse, ni matérielle, ni spirituelle. Il n'y a pas de limite à sa compétence intellectuelle, sa sagesse et sa connaissance. Dieu connaît tout. Il sait tout faire. Et Dieu peut tout faire. Et en fait, Dieu fait tout ce qu'il veut. Gloire à Dieu. Quant à nous, pour avoir de la sagesse, le Seigneur nous invite, dans Jacques, chapitre 1, verset 5 et le début du verset 6, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donné, mais qui demande avec foi. Hein? Quand on demande quelque chose à Dieu, il faut avoir confiance que Dieu va répondre, qu'il peut répondre s'il veut. Donc notre verset dit que personne ne peut tracer ni explorer les voies de Dieu. Nous ne pouvons que, comme j'ai dit tout à l'heure, gratter la surface. Ces voies sont impénétrables. Heureusement, Dieu nous a révélé les Écritures pour diriger nos pensées et éclairer nos sentiers. Si Dieu n'avait rien dit, on serait laissé dans les ténèbres. Ces résolutions, ces jugements sont impénétrables, insondables, impossibles à rechercher et donc à critiquer. Alléluia. Parmi ces résolutions, parmi ces jugements impénétrables se trouve l'Évangile. Donc, c'était ça le sujet. Romains chapitre 1 jusqu'à Romains chapitre 8. Et puis, chapitre 9, 10 et 11, c'était « Il faut croire ». OK? Donc, parmi ces choses impénétrables, c'est l'Évangile. Avant d'entamer la création, Dieu a trouvé le moyen unique pour effacer tous nos péchés. Nous ne comprenons pas grand-chose, mais nous savons une chose. Pour que le salut soit efficace, il faut croire en Jésus-Christ. Ce besoin de croire en Jésus-Christ, c'était le sujet de chapitres 9 et 10 et 11. Et là, on est à la fin. On a dit, il faut croire, il faut croire, il faut croire. Alléluia, gloire à Dieu, louez Dieu, etc. Donc, parmi ces résolutions, c'est l'Évangile. Dieu nous a pardonnés. Il nous a purifiés. Il nous a déclarés justes. Mais c'était au prix de la vie de son Fils. Ce jugement, donc ce jugement de condamner son Fils et de nous déclarer justes, ce jugement nous a donné la vie éternelle et l'adoption dans la famille de Dieu. La complexité de ces décisions nous dépasse, mais Dieu arrivera à son objectif. En Romains chapitre 8, nous avons lu, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a un dessein et il va l'accomplir. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Pourquoi a-t-il aimé le monde? Pourquoi Dieu sauve-t-il quelqu'un? Pourquoi Dieu m'a-t-il aimé? Ou pourquoi Dieu m'a-t-il sauvé? Nous avons beaucoup de questions que nous aimerions poser à Dieu. La divinité reste, donc voilà ces trois mots encore, insondable, incompréhensible et impénétrable. Même si nous voulons tout comprendre, ces mots signifient que notre intelligence est bien trop limitée. Il n'y a pas de comparaison entre l'intelligence divine et l'intelligence humaine. Il est donc normal que notre compréhension ne touche qu'une petite partie des pensées du Seigneur, et ceci grâce aux Écritures. À Dieu soit la gloire. Quel cadeau de nous donner un peu de sa connaissance. Même Salomon, avec toute son intelligence et sa sagesse, n'est pas allé trop loin dans sa compréhension de Dieu. Il témoigne dans Ecclésiaste, chapitre 8, versets 16 à 18, et le mardi soir, nous lisons dans les Ecclésiastes actuellement. Alors, Salomon dit, « Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre, car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni jour ni nuit, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. C'est-à-dire, l'œuvre de Dieu est trop vaste pour qu'un homme ne la comprenne. Et les choses futures sont inconnues à tous. Ayons donc l'humilité de reconnaître nos limites et notre petitesse. Nous devons louer Dieu pour sa divinité, sa sagesse, sa puissance, son intelligence, sa révélation, sa richesse, son amour, et bien sûr pour notre salut. Au verset 34, Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Ben, la réponse est personne. Pourtant, il y a beaucoup de monde qui s'enfle d'orgueil et secoue le poing vers Dieu et sont prêts à lui donner leur avis. Mais Dieu, j'aurais fait autrement. Comme si on avait tout compris, nous. C'est nous qui avons besoin de ses conseils. Verset 35. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Il veut dire, Dieu est-il en dette à quelqu'un? Dieu doit-il quelque chose à quelqu'un? Eh bien, la réponse, encore, personne. Personne. Personne n'a donné à Dieu en premier. Okay? Le monde entier appartient à Dieu. Qu'avons-nous donc que nous pouvons lui donner qui ne nous a pas été déjà donné? Tout vient de Dieu. Quand on lui donne quelque chose, c'est quelque chose qu'il nous a donné. On rend à Dieu. Certes, chacun devrait rendre un peu de ses biens et de son temps à Dieu en reconnaissance du fait que tout vient de Dieu. Pourtant, pour être clair, c'est nous qui dépendons de Dieu et non pas Dieu qui dépend de nous. C'est nous qui devons à Dieu et ce n'est pas Dieu qui doit quoi que ce soit. Donc je vais faire une petite déviation sur ce thème. C'est en partie pour cela, donc, le fait que chacun devrait rendre un peu de ses biens et de son temps à Dieu en reconnaissance du fait que tout vient de Dieu. C'est en partie pour cela que Dieu a fait dire par le prophète Malachie, donc je vais lire dans Malachie chapitre, je crois que c'est le chapitre 3, verset 8 à 10. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et puis Dieu répond, dans les dîmes et les offrandes. Donc, au cas où vous ne connaissez pas les mots, les dîmes, c'est le dixième, 10%. Et les offrandes dans l'Ancien Testament revenaient à peu près un autre 10%. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était un peu comme le TVA. Sous la loi, les Juifs rendaient à Dieu, entre les dîmes et les offrandes, à peu près 20% de leur profit. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Donc, pourquoi ils sont frappés par la malédiction? Okay? Le problème, c'est que, puisque les Juifs ne rendez pas à Dieu selon les règles de la loi, eh bien Dieu y a fait un genre de prélèvement à la source. Avant que les terres produisent les graines et tout ça, Dieu les a coupées. Le terre ne produisait pas. Parce que eux, ils ne respectaient pas Dieu. Dieu ne les respectait pas non plus. Eux, ils ne rendaient pas grâce à Dieu. Dieu ne les bénissait pas. Donc il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Donc Dieu lui donne son conseil, ce que Dieu voulait. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction, il n'a pas arrêté la bénédiction en abondance, parce que c'est Dieu. Okay? Donc Malachie les appelle à vivre par la foi, hein, parce que les Juifs étaient entièrement allés à droite et à gauche. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est juste avant juste avant la fin et sont partis ailleurs. OK? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc, c'est quoi de la sorte? De la sorte, c'est en apportant leur participation au culte en dépit de leur pauvreté. Oui, ils étaient dans la pauvreté. Mais Dieu dit, ben voilà, même si vous êtes dans la pauvreté, ben vous m'apportez ma part pour que moi je puisse réagir en vous faisant une bénédiction par abondance. Jésus a dit quelque chose de semblable dans Luc chapitre 6, verset 38. Donc c'est vrai que Malachie, c'est dans l'Ancien Testament, ça concerne la loi. Mais là, on est dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui dit, dans Luc chapitre 6, verset 38, « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Donc, en appliquant encore à Malachie, puisque les Juifs retiraient leurs offrandes et leurs dîmes, Dieu retirait sa bénédiction. Donc, c'est une question de justice. Mais l'enseignement de Jésus ici, pour les chrétiens, il dit de donner. Donner est un acte de foi qui peut être béni de Dieu. Alors attention, parce que Dieu n'est pas débiteur. Dieu n'est pas obligé de bénir. Mais ça lui donne cette possibilité de nous bénir en abondance. En revanche, ne pas donner annule la possibilité de cette bénédiction. Quelle tristesse, car Dieu, il veut nous bénir. C'est pour cela qu'il nous donne le code. Il dit, quand nous donnons par reconnaissance à Dieu, Dieu peut nous rendre en abondance. Mais, donc, à comprendre, quand Dieu bénit, il ne bénit pas comme un homme. Il est Dieu, il est majestueux. Il est juste, il est généreux. Le Seigneur n'agit pas comme les hommes qui trichent et qui nous trompent. Hein? Dieu n'agit pas comme ça. Dieu donne avec justice. L'image dans le verset de Jésus, c'est du grain. Donc, on a un seau, on vient au commerçant, on achète et on verse les graines dans le seau. Il serre, il secoue. Il fait tout le nécessaire pour remplir jusqu'au bord, et puis vous pouvez imaginer, ça tombe un petit peu sur les côtés. Pour que on ait le plus possible. Bon, c'est pas comme nous, on va au marché parfois, et première chose, vous achetez les fruits, et puis de temps en temps, ils vont mettre un qui est pourri. Vous arrivez à la maison, vous avez votre sac avec les fruits, et puis oh, c'est pas tout ce que vous avez acheté. Hein? Dieu n'agit pas comme ça. Mais soyons clairs encore, Dieu lui-même n'a jamais besoin de nos offrandes. Dieu n'a pas besoin. Nos offrandes sont données aux hommes. Ceci montre à Dieu, quand on participe dans le culte, le soutien du culte, ceci montre à Dieu notre amour, notre dépendance, notre obéissance, notre soumission et notre reconnaissance envers lui. Il n'a pas besoin de cet argent, mais ça fait partie des moyens que nous pouvons montrer toutes ces choses à Dieu. Dans les évangiles, Jésus a souvent parlé de l'argent et des biens. Par exemple, les paraboles des talents et des mines parler de l'utilisation de l'argent, soit avec fidélité, soit avec infidélité. Dans ces paraboles, l'utilisation de l'argent montrait le caractère de la personne. Une autre fois, Jésus a fait remarquer une vieille dame qui a mis deux petites pièces de cuivre dans la boîte aux offrandes du temple. Elle n'a pas beaucoup donné matériellement. mais elle a tout donné de plein cœur. Jésus a dit de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a montré donc sa dépendance sur Dieu et certainement son amour pour Dieu. Ce que nous donnons pour notre Église ou pour l'œuvre de Dieu, parce qu'il y a plus qu'une petite Église, hein, il y a le monde entier qui a besoin des choses, ce qu'on donne à l'œuvre de Dieu reflète notre caractère, notre foi, notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Le chrétien, par contre, l'autre côté, le chrétien qui ne participe pas aux besoins financiers, et là je parle de l'Église locale, montre des lacunes dans sa relation avec son Sauveur. Donc, d'après le prophète Malachi, comment Dieu peut-il bénir ceux qui retiennent leurs offrandes? Il dit qu'il ne peut pas. Il faut agir. C'est comme s'il volait Dieu. Malachi nous dit clairement qu'il faut contribuer aux frais du culte comme un acte de confiance envers Dieu qui peut bénir au-delà de nos attentes. Bon, ça, c'est une grande déviation. Je reviens sur le texte de verset 36. Verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui, que sont toutes choses. À lui, la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc, il dit toutes les choses. Okay? Donc, rien n'est exclu. Okay? De lui, par lui, pour lui, sont toutes choses. De lui, parle de l'origine. Toutes choses ont leur origine en Dieu. C'est lui qui a imaginé, qui a inventé, qui a créé toutes choses. Il est la source de toutes choses. Par lui, ça veut dire le moyen, la manière que c'est arrivé. C'est seulement par ses propres capacités que toutes choses existent, les capacités de Dieu. Dieu est le créateur. Par la vertu de sa parole seule, Dieu a amené à l'existence toutes choses, selon sa puissance et son savoir-faire parfait. Dieu n'a pas tâtonné ni cherché par essai et erreur la meilleure solution pour chaque chose. Depuis le début de la création, Dieu a conçu et mis en œuvre toutes les espèces. Tout était très bon et parfait à l'origine. Pour lui, ça parle de l'objectif ou l'utilité de quelque chose. Pour lui, toute chose trouve leur raison d'être en Dieu. Dieu est votre raison d'être. Nous devons chercher à lui plaire, à nous conformer à ses attentes. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Dieu n'a pas dit que les femmes, par exemple, Dieu n'a pas dit que les femmes doivent régner sur le mari, ni qu'elles doivent gérer les églises locales, bien que, à cause du péché, cela peut arriver. Ces aberrations existent parce que l'humanité pense pouvoir améliorer le plan de Dieu. L'homme pense que Dieu a peut-être oublié quelque chose. L'homme pense que c'est pour lui que toutes choses existent. Frères et sœurs, là où Dieu a parlé, il n'y a pas de discussion. On ne dit pas non à Dieu. On ne dit pas à Dieu, non, mais j'ai une meilleure solution. Ça ne marche pas comme ça. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Tout ce que l'on attribue à autrui ou à autre chose signifie qu'on le retire de Dieu. Si l'on attribue le salut à l'Église ou au baptême, cela signifie que le salut ne vient pas de Dieu. Le salut biblique a comme objectif la gloire de Dieu dans l'éternité. C'est pour cela que Paul a dit dans Éphésiens 2, 8 et 9, et Paul le dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, Et cela, cela c'est le salut, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Ça revient toujours à Dieu. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui, la gloire dans tous les siècles. Donc, comme j'ai dit au début, hein, chapitre 1 à 8, Dieu a montré, expliqué l'évangile. Dieu nous aime. Et puis, dans le chapitre 9 à 11, nous avons appris que cet amour doit être reçu par la foi. Dieu sauve l'homme pécheur par l'évangile de Jésus-Christ. Dieu est digne de confiance. Okay? Et puis, ici, dans ces derniers versets, on voit que Dieu, il est bien, non pas seulement de notre confiance, mais aussi de notre louange. Car Dieu, il est Dieu. Donc, ma question aujourd'hui, croyez-vous que toutes choses soient de Dieu? Que c'est par lui et pour lui? Et si vous croyez que c'est vrai, est-ce que vous organisez votre vie pour que ça plaise à Dieu? Puisque vous êtes de Dieu et votre utilité est pour Dieu. Donc, dans la suite de l'Épître aux Romains, on va voir la mise en pratique de l'Évangile dans la vie du croyant. Tout ça, c'était la théorie, comment arriver à être sauvé, mais dans la suite, c'est pour nous qui croyons, comment devons-nous vivre? Donc, les chapitres suivants vont montrer comment vivre la vie chrétienne. Si vous êtes croyant dans Jésus-Christ, donc Dieu vous a pardonné vos péchés par l'Évangile, eh bien, il y a une suite logique. Dieu, notre Sauveur, est digne de la première place dans votre vie. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Une autre question. Y a-t-il quelque chose dans votre vie que Dieu n'aime pas? Jésus a trouvé plusieurs choses qu'il n'aimait pas dans les sept églises de l'Apocalypse. Qu'en est-il de votre vie? Dieu, votre Sauveur, est digne de voir les bonnes choses dans votre vie. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 dit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, donc ça veut dire un peu toute notre vie, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Veillez à vos activités pour vous assurer qu'elles sont à la gloire de Dieu. En particulier, donc comme on a vu tout à l'heure, l'utilisation de votre temps et l'utilisation de votre argent. Dieu, votre Sauveur, est digne d'être le maître de notre vie. C'est pour cela que nous appelons Jésus, on dit le Seigneur, on dit le maître, on dit le roi, etc. Hein? Nous chantons parfois le petit chœur, « Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître à moi. Alléluia, alléluia, alléluia. » Okay, donc ce mot-là, « Alléluia », ça veut dire « Louer Dieu ». Et donc, la suite, je vous donne que le premier verset, on recommence là la prochaine fois, Romains chapitre 12, verset 1, représente cette suite logique. L'importance de louer Dieu par toute votre vie entière. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte, et on a le mot raisonnable. un culte logique. Okay? Puisque Dieu vous a sauvé par l'offrande de son Fils, il est raisonnable que vous rendiez votre vie nouvelle à Dieu. Quand je baptise les gens, c'est la seconde question. Je demande s'ils croient en Jésus-Christ, s'ils l'ont sauvé, oui. Est-ce que vous comptez vivre une vie chrétienne? Et ils disent oui. S'ils disent non, pas de baptême. Parce qu'on est sauvé pour servir. Dieu nous a sauvés pour un avenir. Donc c'est la seconde question. Comptez-vous vivre la vie chrétienne? Ce ne sont pas les options pour les chrétiens. On est chrétien. La vie chrétienne, c'est comme ça. Vivre autrement. Donc, un chrétien qui ne vit pas la vie chrétienne, ça veut dire qu'il vit en dehors de la volonté de Dieu. C'est vivre selon la chair. Donc, il est vrai que les fonctions en Christ sont différentes pour nous tous. D'accord? Ce que nous faisons en tant que chrétiens, c'est différent pour nous tous. Mais nous avons tous le même sauveur. Le chrétien sérieux est donc conscient de sa vie devant Dieu. Donc, j'espère que vous allez réfléchir sur ces thèmes. Et comme j'ai dit, nous allons développer chapitre 12 pendant plusieurs dimanches parce qu'il y a tellement de pensées, d'idées que je ne peux pas tout mettre dans un message. Il faut le diviser dans plusieurs messages. Voilà.